Bonjour à toutes et à tous. Il y a plusieurs semaines, nous avons vu de la parole de Dieu et ce que la sanctification était. Et ce matin, je voudrais continuer sur le même sujet parce que je pense que la sanctification est quelque chose que les chrétiens se soucient moins. La parole de Dieu nous enseigne que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et vous connaissez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Je voudrais faire un petit rappel quand même sur ce mot sanctification. Se démarquer dans un but particulier, se consacrer à Dieu, consacrer pour rendre saint, de se séparer d'autres choses ou de personnes. Le sens fondamental de sanctifier est de se démarquer à Dieu pour son usage. Le sens générique de la sanctification est l'état de bon fonctionnement. Sanctifier quelqu'un ou quelque chose, c'est mettre cette personne ou cette chose à part pour l'utilisation prévue par son concepteur. Je peux penser à ce que l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Romains. Je vous demande de tourner avec moi en Romains, le premier chapitre, on va lire à partir de verset 20 jusqu'à 28. Romains, chapitre 1, nous allons lire à partir de verset 20 jusqu'à 28. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'avant et ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur le désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ici, nous comprenons que notre Créateur a conçu que nous soyons consacrés, saints pour lui, uniquement pour son usage. Mais à cause de la péché, nous avons vu comment l'homme a dérivé pour commettre les choses atroces contre l'intention originelle de son Créateur. De nos jours, il est absolument nécessaire que nous devrions lire régulièrement la parole de Dieu et être trempés en elle pour comprendre pourquoi et comment Dieu nous a créés. Nous savons tous que le monde nous enseigne constamment tout ce qui est contre la parole de Dieu. Il n'y a plus de gens enseignés dans les écoles et cela commence même au niveau élémentaire. Dieu n'a-t-il pas séparé la lumière d'avec les ténèbres? La nuit et le jour, le bien et le mal. Mais pourquoi maintenant toute cette confusion? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, dit Jésus. Et nous n'avons pas le droit d'unir ce que Dieu a séparé. Aujourd'hui, tout est considéré comme relatif. Il n'y a apparemment pas de vérité absolue, ni de mensonge absolu. Pourquoi? Parce que l'homme n'est même pas capable de regarder la lumière. Il se cache loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres, du jardin, à cause de leurs péchés. Nous avons besoin de la lumière, la parole de Dieu, pour être éclairés. Le psalmiste n'a-t-il pas dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, 9. Et encore en 1 Jean 1, 7, nous lisons, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. » Sanctifier quelqu'un ou quelque chose, c'est mettre cette personne ou cette chose à part pour l'utilisation prévue par son concepteur. Un être humain est donc sanctifié lorsqu'il vit selon le dessein et le but de Dieu, son créateur. Le mot grec traduit sanctification, c'est agiasmos. Je ne sais pas comment on prononce. Le savant grec, il peut prononcer correctement. Agiasmos signifie sainteté. Sanctifier, par conséquent, signifie rendre saint. Lorsque nous étudions ce sujet de la sanctification, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes les enfants d'un Dieu tout-puissant qui est omniscient et omniprésent. Le plan de salut de Dieu est si vaste et inconcevable à nos esprits. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Je n'arrive pas à mesurer son immense amour dans son acte de salut. La parole de Dieu nous dit, il nous a tant aimés. Mais comment mesurer cet immense amour? Bien souvent, nous ne pensons pas que notre Dieu est si grand et qu'il désire le salut de toute l'humanité. Nous avons tendance à nous rétrécir, à nous asseoir dans une grotte et à dire comme Élie, « Moi seul ». Bien souvent, nous ne pensons pas aux autres, que Dieu il veut le salut de chacun et chacune. Pourquoi je dis cela? Je sais que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour moi. Mais je ne suis pas seul dans son plan de salut. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en lui. Et Dieu veut la sanctification de chacun de ses enfants. Dieu désire la sanctification de son corps. Dieu veut la sanctification de toute son Église. Imaginons cette chose, s'il y a 100 pianos ici dans cette salle, et je pense que l'appareil pour accorder le piano s'appelle une fourche ou un tong, je ne sais pas, un accordeur ou un marteau. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais un instrument pour accorder un piano. Et vous est-il déjà venu à l'esprit qu'une centaine de pianos, tous accordés à la même instrument, sont automatiquement accordés les uns aux autres? Chaque piano, il est accordé avec un ton, avec un ton ou un marteau. Ils sont d'un accord et en étant accordés, non pas les uns aux autres, mais à une autre norme à laquelle chacun doit s'incliner individuellement. Ainsi, une centaine d'adorateurs réunis, chacun regardant vers Christ, sont dans le cœur le plus proche les uns les autres, des autres qu'ils ne pourraient l'être. C'est à Tozer, il donne cette illustration dans son livre Poursuite de Dieu, The Pursuit of God. Dieu, notre Créateur, garde toujours le meilleur pour nous. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Il ne peut pas être autrement car il est saint. Le péché que nous commettons empêche Dieu de nous bénir. Nous sommes sauvés pour être une bénédiction pour les autres. Nous sommes sanctifiés pour être utiles pour Dieu dans son plan de salut. Nous allons voir ici quelques exemples qui ont été sanctifiés pour être une bénédiction pour les autres. Bien sûr, de la parole. Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Dieu bénit les hommes à travers les hommes. Nous allons prendre quelques exemples. Donc, Abraham a été béni pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Abraham a été béni pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Regardez ce que Dieu dit à Abraham en Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. » Et dans le verset 17, nous voyons, « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. » Et Dieu nous utilisait pour bénir les autres. Et en même temps, un enfant de Dieu peut devenir une malédiction aussi pour les autres par sa conduite. Et deuxièmement, nous voyons cet homme Laban. Dieu a béni Laban à cause de Jacob. Vous vous souvenez, Laban, il était l'oncle maternel de Jacob et Jacob a travaillé chez Laban pour se marier avec ses filles, Rachel et Léa. Écoutez ce que Laban dit par rapport à cela. Laban parle à Jacob, « Puis-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Genèse 30, 27. Et encore, nous voyons un autre homme béni par un serviteur de Dieu, par un homme de Dieu, c'est Potiphar, en Égypte. Dieu a béni Potiphar par Joseph. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Et on peut penser, je pense que quelque part dans la parole dit que tout ce qu'il fait prospérera. Et donc, à cause de Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Et encore, nous lisons en Isaïe 19, 24 et 25. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Israël et Juda devaient bénir les nations. Et cinquièmement, nous voyons que Dieu bénit toutes les nations à travers de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu bénit toutes les nations à travers de Jésus-Christ. Oui, par tous ces exemples cités ici-dessus, nous voyons comment Dieu a béni les autres par ceux qui ont été sanctifiés. Toutes ces personnes, elles étaient appelées par Dieu, sanctifiées, démarquées. Toutes ces personnes que nous avons vues, elles étaient mises à part par Dieu, puisqu'elles peuvent être une source de bénédiction pour les autres. Cela nous rappelle encore qu'être sanctifié et mettre à part avec un but spécifique pour être utilisé par Dieu selon sa volonté. Et quand nous sommes dans la main de Dieu et quand nous soumissons à la volonté de Dieu, Dieu il bénit tout ce qui sont autour de nous. Souvenez-vous de quelle manière Dieu sanctifia Abraham? Regardez avec moi en Genèse 12. Nous allons voir le premier 4 versets. Genèse, chapitre 12, à partir de verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et sans savoir où il allait. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Mais Dieu, il avait un plan pour lui. Dieu, il avait un projet pour lui. Dieu, il avait... Ça, c'est le grand projet de Dieu. Mais on ne peut pas savoir quand Dieu nous appelle. Quand Dieu il veut que nous soyons mettre à part. On ne sait pas ce que le grand Dieu pense à faire à travers de nous. Mais quand c'est ainsi, Abraham, il est devenu une source de bénédiction pour des nations. Parce que quand Dieu lui a appelé, il est parti sans savoir où il allait. Rappelons-nous qu'Abraham, Jacob, Joseph et le peuple d'Israël étaient tous comme vous et moi. Ils étaient tous des pécheurs. Ils ont commis des bêtises. Mais ils étaient utilisés puissamment par Dieu, car ils étaient mis à part pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ils étaient mis à part pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Remarquons ici que Dieu n'utilise pas ses anges pour accomplir sa volonté ici-bas sur cette terre. Il utilise des simples hommes et femmes comme vous et moi, ici. On refuserait même d'obéir à Dieu pour faire sa volonté. Il a certainement les autres pour faire son œuvre. Mais quel dommage serait-il de refuser d'être entre les mains de notre divin potier? Et une autre chose qu'on peut voir, c'est que Dieu sanctifie toujours les hommes qu'il utilise. Premièrement, Dieu, il sanctifie les personnes qu'il veut utiliser pour son œuvre. Dieu a toujours un peuple sanctifié sur terre. En Sophonie 3, versets 12 et 13, nous lisons, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. » Donc Dieu, il a toujours un peuple sanctifié sur cette terre. Dieu, il a toujours une réserve. Et donc, nous ne devrions pas penser que si moi, je ne travaille pas pour Dieu, si je n'obéis pas à Dieu, Dieu ne peut rien faire. Dieu, il a toutes les ressources sur la terre et dans les cieux. Il est tout puissant. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Il y avait une génération de peuples sur cette terre qui remplissait la terre, qui habitait sur la terre. Mais Dieu l'a vu quand même, Noé et sa famille. Noé, sa femme, ses trois fils et des belles-filles. Donc il était que huit. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Un chrétien sanctifié est une source de bénédiction pour les autres, comme Abraham, Joseph, Moïse, même Marie, dans le Nouveau Testament. Les Nazaréens de Dieu, les Nazaréens, c'était des gens qui étaient mis à part dès leur naissance. On a deux exemples dans la Bible, c'est Samson et Jean-Baptiste. On nous trouve en Juge 13 et Luc chapitre 1. Les Nazaréens sont des personnes sanctifiées, consacrées pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il y avait même un vœu nazaréen, et nous voyons cela dans l'Ancien Testament. Je peux lire dans le livre de Nombres, chapitre 6, le premier 7 versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il l'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucun liqueur tiré des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau de raisin, pendant tout le temps de son naziréat. Le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souviendra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. C'est tellement strict, la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le vœu de Nazaréa. Et quand nous voyons Samson, un homme sanctifié dès le sein maternel, nous lisons en Juge 13, la vie de Samson était assez particulière. Dieu l'a élevé pour protéger son peuple Israël durant une période particulièrement difficile. Nous voyons ce verset se répéter plusieurs fois dans le livre des juges. C'est triste. Je vais lire ce verset. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, le temps de juges, hein, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Samson est l'un des juges les plus reconnaissables qui ont régné sur Israël avant l'époque des rois. Il était un Nazaréen, mais a enfreint de nombreuses règles du vœu de Nazaréat. Dieu a donné Samson avec une force incroyable, mais il a perdu sa force quand Delila l'a trahi aux Philistins, qui l'ont aveuglé et réduit en esclavage. À la fin de sa vie, Dieu a restauré sa force de Samson. Et nous trouvons le nom de Samson sur la liste des héros de la foi dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Le but de Dieu était de renverser les Philistins avec un seul homme. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu aurait accompli beaucoup plus avec Samson s'il était resté saint, fidèle et sanctifié. Dieu n'était pas responsable pour tout ce que Samson a voulu accomplir par le désir de sa chair. Dieu l'a utilisé malgré ses défauts pour sauver le peuple d'Israël. On a une leçon à apprendre. Si nous sommes sanctifiés, nous restons consacrés pour faire la volonté de Dieu, pour obéir Dieu, Dieu peut nous utiliser puissamment. Dieu peut accomplir beaucoup de choses à travers de nous. Mais sinon, Dieu ne manque pas de ressources. Il fera son œuvre quand même, avec ou sans nous. Dieu nous a sanctifiés en nous arrachant de la main du diable. Il nous a sauvés de notre ancien maître, de l'esclavage. Et nous sommes sanctifiés pour être utilisés par lui. Comment servons-nous notre Dieu, notre divin maître? Nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu une sanctification complète. Nous sommes rachetés, lavés, scellés par le sang de Jésus. En Galates 3.13, nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit, et quiconque est pendu au bois. » Pour nous sauver de nos péchés, Christ il est devenu la malédiction. Il est devenu le péché pour nous. Éphésiens 1.7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et je lis encore de Hébreux 9.13-14, car si le sang des taureaux et des boucs et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Quel est notre statut aujourd'hui? Et Samson, il a brisé son vœu de Nazaréen. Mais nous sommes purifiés et sanctifiés par le sang de Christ. Ce que tous les sacrifices dans l'Ancien Testament n'ont pas pu accomplir. Le sang de Christ nous sanctifie, nous purifie. En Apocalypse 7, 14, nous lisons, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de grandes tribulations. Ils ont lavé leur robe. » Et ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. Les saints qui ont sanctifié par Christ, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Un chrétien, en vue de cette sanctification, devrait être une puissance. Est-ce que nous sentons cette puissance? Un chrétien, en vue de cette sanctification, devrait être une puissance. Dieu veut bénir les autres à travers de nous. Sommes-nous prêts à être utilisés par lui? Nous pouvons venir à Dieu tel que nous sommes. Mais Dieu nous sanctifiera et nous utilisera. Vous savez, l'orfèvre, celui qui travaille avec ce précieux métal, l'or, l'orfèvre commence son travail avec un minerai d'or. Grâce au processus de raffinage, il extrait et moule l'or pur en enlevant toutes les impuretés du minerai. Ce processus implique le feu et l'attention étroite de l'orfèvre. Il met le minerai dans le feu afin de brûler certaines des impuretés. Puis il le sort et le façonne, puis le met de nouveau dans le feu. Durant tout ce temps, il garde un œil sur son métal précieux. Le but de l'orfèvre est de façonner ce métal précieux jusqu'à ce qu'il puisse voir son reflet en lui. En le psaume 66 dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tout comme l'orfèvre affine son métal précieux dans le feu. Dieu affine ses précieux enfants dans les adversités de la vie. Il le fait dans le même but que l'orfèvre met son minerai dans le feu pour éliminer les impuretés et pour que nous brillions et que nous réfléchissons son image. Pendant que nous sommes dans le feu, il ne retire jamais les yeux, mais surveille de près. Mieux que l'orfèvre avec son métal, Dieu est avec nous dans le feu afin que nous soyons raffinés. C'est même Dieu que nous voyons dans le livre de Daniel. Le roi, il a vu la quatrième personne dans le feu. Il a demandé, est-ce que ce n'est pas l'image du Fils de Dieu? Et ce processus de sanctification, bien sûr, c'est l'épreuve, c'est dur à supporter, mais nous devrions avoir nos yeux sur notre Dieu. Il est en train de faire quelque chose de beau dans notre vie. En Zacharie 13, 9, « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. J'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et j'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » C'est mon peuple, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Savez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes dans le feu afin d'être purifié dans ce chemin de la sanctification? Si oui, avez-vous une meilleure idée maintenant comment l'or et l'argent pourraient se sentir au sujet du processus de raffinage? Cela peut souvent sembler injuste et sans espoir. Mais n'oubliez pas que Dieu garde son œil sur vous et utilise ce temps pour vous rendre pur, pour vous rendre semblable à Jésus afin qu'il puisse voir sa réflexion en vous. Regardons le visage de notre divin orfèvre et non le feu. Mais bien souvent, nous voyons nos épreuves, le feu, mais nous oublions que Dieu est là. Écoutez ce que l'apôtre Paul il dit aux épîtres aux Philippiens. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce que nous sommes persuadés? Mais bien souvent, nous chantons ce beau cantique, « Te ressembler, Jésus. » Ça ne se fait pas d'une manière automatique. Juste parce que nous chantons ce cantique, nous ne deviendrons pas dans l'image de Christ. Il y a un processus à subir qui est difficile dans la vie chrétienne. C'est le chemin de la sanctification. Vous savez, parfois, nous sommes dans la route et parfois on voit un panneau que personne n'aime, hein, à travaux, à déviation. Et souvent, peut-être on est pressé pour partir quelque part, on voit que travaux, ce panneau jaune et déviation, il nous amène partout. Souvent on sait que le mardi soir l'autoroute est fermée, ce qu'on subit. Mais quand nous passons par ces travaux d'une autre route ou au bout de ces travaux, au bout de la route, il y a un autre panneau, on trouve fin de travaux, merci de votre patience. Et vous savez, l'épouse de Ruth Graham, l'épouse du fameux prédicateur Billy Graham, Un jour, elle était en train de passer elle était dans la voiture, et donc elle a vu ce panneau, fin de travaux, merci de votre patience. Et donc elle a rentré à la maison, elle a dit à son mari, je trouvais quelque chose pour mettre sur mon tombeau. Elle a dit, vous devrez écrire, fin de construction, fin de travaux, merci de votre patience. Et la famille, ils ont accompli sa vœu. Et même aujourd'hui, sur son tombeau, cet épitaphe est écrit, fin de travaux, fin de construction, merci pour votre patience. Et vous savez, Dieu est en train de faire le travail dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu est en train, il est en œuvre, il est en train de travailler dans le... C'est pourquoi nous voyons les imperfections chez les autres. Vous voyez l'imperfection en moi. C'est pour cette raison que nous voyons encore l'imperfection dans l'Église, parce que nous sommes en travaux. Dieu est en train de faire l'œuvre. Ce sera dommage si Dieu ne fait rien, il nous laisse tel que nous sommes. Dieu est en train de purifier chacun d'entre nous. Dieu est en train de sanctifier son Église. Et un jour, ce sera fini. Et ce sera écrit, fin de travaux, merci pour votre patience. Et nous devrions avoir la patience quand nous voyons des problèmes, des défauts dans la vie des autres, frères et sœurs. Et si nous sommes encore ici bas sur cette terre, et parce que Dieu est en train de faire quelque chose beau dans notre vie, il est en train de travailler dans notre vie. Donc nous devrions poursuivre cette voie de sanctification, dans cette voie de sanctification, puisqu'on peut ressembler à Jésus-Christ pour tous ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui nous entourent. Est-ce que nous reflétons l'image de notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus-Christ? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne, qui nous avertit. Seigneur, ta parole qui nous corrige, ta parole qui nous édifie. Seigneur, merci parce que, Seigneur, même quand nous étions encore tes ennemis, tu nous as aimés. Quand nous étions encore les pécheurs détestables, Seigneur, quand personne ne voulait de nous, Seigneur, tu as eu compassion de nous. Comme bon Samaritain, tu es venu envers nous, vers nous, et tu nous as relevés, tu nous as pris dans tes mains, dans tes bras. Et Seigneur, tu nous as sauvés. Merci pour ton grand amour envers nous. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous ici. Nous te remercions pour ton œuvre dans ton Église. Seigneur, que cette Église ressemble à ton Fils. Seigneur, nous reflétons l'amour de Christ dans le monde où nous vivons. Seigneur, pardonne-nous de nombreux péchés que nous commettons. Seigneur, aide-nous à quitter des choses que nous avons compris, de ne pas revenir vers ces choses que, Seigneur, de lesquelles que tu nous as sauvés. Seigneur, tu as payé un grand prix pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Aide-nous à comprendre ce que tu as fait sur la croix. Que cette croix, Seigneur, sois toujours devant nos yeux. Ta mort et ta souffrance pour nous sauver. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ces exemples, pour ces hommes de la Bible, Seigneur, qui sont passés devant nous. Seigneur, quand tu nous appelles, Seigneur, aide-nous à promptement répondre, mais aussi, Seigneur, prends-moi et utilise-moi. Seigneur, que ton nom soit glorifié parmi ton peuple et dans ce terre comme c'est sanctifié au ciel. En ton nom, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.